Oriental. Je réduis totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de me convaincre au fait qu'en gras, je pense qu'on peut, en combinant les deux, bâtir mais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons à nouveau dans ce magazine d'échange citoyen sur la fréquence de l'APN. La Commission électorale indépendante CENI a publié lundi 29 février la liste des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. 21 dossiers de candidature ont été déclarés irrécevables. Selon les rapporteurs de la CENI, certains candidats ont été élus lors des consultations électorales précédente à titre de députés nationaux ou provinciaux, sénateurs, gouverneurs sur la liste de la majorité présidentielle. Sur cette base, ils ne peuvent se présenter en candidat indépendant. Alors, certains observateurs estiment que la décision de la majorité tient la route, vu que la plupart d'entre eux n'avaient pas reçu le quitus avant de postuler. Une autre opinion pense plutôt que cette décision est en violation à l'article 8 de la loi sur les partis et politiques qui garantit à tous citoyen la liberté d'adhésion et de retrait d'un parti politique de son choix. Alors, quel est votre avis? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Julie Pesa, Bongonde et Tostandard, Alain Goy à la mise en onde, Pierre Lamégie à la réalisation de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lingembo sous la supervision de Martin Sebou-Janguet. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lingembo.
Jusqu'en dernière minute, nous avons eu l'accord de principe du rapporteur adjoint de la CENI pour participer à cette émission. Voilà, quand en dernière minute, en fait, le rapporteur nous a fait savoir qu'il a connu un malaise, il ne sera pas être les nôtres pour réfléchir et échanger avec les auditeurs par rapport à cette thématique. Qu'est-ce que la nôtre? Nous avons les auditeurs qui, en fait, nous ont envoyé leur message sur notre page Facebook que nous allons découvrir d'un moment à l'autre et aussi quelques auditeurs qui vont intervenir en direct. Alors, Arsène, vous êtes à Kikui. Arsène, vous êtes avec nous?
Oui, oui, je suis avec vous. Bonjour tout le monde.
Alors, vous avez l'honneur de d'ouvrir le débat de ce jour. Vous êtes avec nous. Quel est votre avis?
Bon, mon avis est simple, parce que moi, je veux voir dans le sens du comportement qu'affiche ce que nous appelons aujourd'hui la majorité présidentielle ou parlementaire. Mais je suis en train de remarquer qu'il n'y a pas assez d'organisation de compréhension interne. Parce que si nous avons une majorité, le peuple doit vraiment s'asseoir sur cette majorité-là. Et cette majorité doit afficher des comportements qui relèvent même de la vie populaire. Aujourd'hui, les gens vont postuler gouverneur. On passe tout le temps, on verse son argent, on attend, et à la proclamation, on vous dit, vous êtes à côté parce que la majorité est écrite. Alors moi, je me pose la question de savoir, si aujourd'hui j'appartenais dans un groupe, et que le groupe désignait 3 ou 4 personnes pour aller dans un sens, moi, je trouve que là, ça ne va pas. À mon avis personnel, je trouve, écoutez, dans cette histoire-là, moi, je vais aller seul. Alors, je n'engage pas le groupe. Comment ça peut-il se faire que, pour faire cela, je dois officiellement d'abord démissionner? Non, ça, on touche sur l'indépendance, sur la liberté de la personne. au cas contraire, les gens vont être réticents, ne pas s'engager dans un groupe si on a des ambitions. Parce qu'on peut avoir une ambition aujourd'hui et demain on peut changer. Qu'est-ce qui oblige, ou peut-être je n'ai pas cette connaissance de la loi, quelle est la loi qui oblige que s'il y a quelqu'un qui se présente dans un parti, et il est obligé seulement de postuler sous le label de ce parti. Parce que moi, je pense, je peux être dans un parti. Si le parti a déjà fait une démarche quelconque et que je me sentais que j'ai de l'ambition là-dessus, je peux aller en tant qu'indépendant sans engager le parti. En tout cas, dans mon sens, je pense que c'est là. De deux, je crois qu'il faut reprocher la majorité. Ils se disent majorité. Est-ce que ce comportement qu'ils affichent face à la population, est-ce qu'ils ont la valeur populaire? Ça, c'est une grande question. Parce qu'on ne peut pas se dire majorité.
Oui, au
Parlement. Non. On doit avoir aussi l'assise populaire. Oui, oui.
Oui, parce que vous avez souhaité avoir quelques informations par rapport à la loi. Ce que dit la loi électorale. Là, pour vous permettre de vous faire une idée très claire, nous allons juste évoquer l'article 22 de la loi qui stipule qu'une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrécevable lorsque 1. Elle reprend les noms d'une ou de plusieurs personnes inéligibles. 2. Elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixés pour chaque circonscription. 3. Elle reprend les noms d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau. 4. Elle ne satisfait pas aux prescrits de l'article 13, alinéa 4, de la présente loi. Alors, que dit l'article 13 ? L'article 13 dit ceci. Au terme de la présente loi, on entend par liste un document établi par les partis politiques ou le regroupement politique comportant plusieurs noms des candidats dans une circonscription électorale à un seul siège à pouvoir. Le parti politique ou le regroupement politique présente la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique. Donc, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation en femmes et de la promotion de la personne vivant avec handicap. Donc, la loi définit tout le contour. Mais l'article que nous avons évoqué, l'article 8, sur les partis politiques, en fait, parle de la liberté d'adhérer à un parti et de se retirer de ce parti par rapport aux intérêts des uns et des autres. Donc je crois que c'est cela le débat. Donc la loi a défini ou encore a donné, a garanti d'une manière ou d'une autre la liberté des uns et aussi a limité en fait les marges de manœuvre pour chacun des citoyens ou chacun des membres, de ses membres.
Ok, voilà, là, en tout cas, vous m'avez éclairci. Là, juste, je vais évoquer l'article 220 de notre Constitution. Donc, ce comportement-là que je suis en train de marteler là-dessus, c'est un comportement qui affiche une faiblesse politique, une faiblesse de réflexion et de raisonnement. Juste parce que ces gens, ils sont devenus à un moment où ils ne savent même plus contrôler la loi. Ils commencent à imposer la CENI. Et quand la CENI prend ce jeu-là directement devant la population, la CENI devient inféodée à un groupe de personnes. Pourtant, la CENI doit garder son indépendance. Et ensuite, je dirais ceci, la CENI n'a fait que réagir sur une lettre. Pourquoi ceux de la majorité ne sont pas allés voir la justice qui devait régler ce problème? Est-ce que la CENI est appelée à lire la loi et à interpréter? Non, quand la CENI directement réagit en fonction d'une demande qui touche sur la liberté, qui réduit la liberté du citoyen, là, vous êtes contre la Constitution. Alors, là, moi, je m'insurge là-dessus. Cette majorité actuelle doit comprendre que nous sommes à la fin du mandat. Et ce comportement-là affiche la faiblesse du regroupement, voire même le manque d'assises. Parce que c'est incompréhensible, JR, c'est vraiment incompréhensible. On va commencer à faire un débat là-dessus. Mais les gens-là qui ont été mis à côté, ils ont payé de l'argent pour être gouvernés, il faut 2 500 000, quelque chose comme ça. Mais l'argent qu'ils ont déposé est irrestituable. Juridiquement, je sens que ça ne tient pas debout.
Voilà,
vraiment, je regrette ce comportement.
Merci beaucoup, Hassan. Il s'agit là que d'une liste provisoire, je crois. Si jamais un candidat se sentait lésé, il n'a qu'à faire son recours, hein, en attendant que la liste, en fait, le contentieux soit suivi de l'autre côté de la cour pour statuer. Alors, Maurice, vous êtes à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Bonjour, Gérard Mungelbo, et je salue l'ensemble des auditrices et auditeurs de Radio Pratique qui nous suivent. Allô, Gilles.
Mais allez-y, Maurice.
Donc, j'ai bien ceci d'entrée de jeu, que on doit éviter de pratiquer la politique de deux poids deux mesures dans ce pays. Vous savez, lorsque on pratique cette politique, on a toujours tendance de faire les choses à la manière de satisfaire en fait ses intérêts, sans pour autant comprendre que demain, ça pourrait quand même retourner contre vous-même, cette politique de poids de mesure. En 2006, comme en 2011, le président Kabila s'était porté candidat indépendant, pourtant il a une famille politique bien connue, qui est le PPRD. Et c'est la même situation que nous avons observée au niveau de la province du Congo central, avec Jacques Mbadi, membre d'un parti politique de la majorité présidentielle, qui n'a pas été soutenu par sa plateforme politique, mais il a été élu. Et par après, il est devenu membre du PPRD. De la même manière, nous l'avions vécu aussi en province orientale avec le gouverneur Bamanissa. Je pense que cette démarche est en train vraiment de ridiculiser même en fait la majorité présidentielle, qui pourtant, à chaque fois qu'un candidat élu indépendant, un candidat du pouvoir comme de l'opposition, une fois élu gouverneur, ces candidats qui sont gouverneurs finissent par adhérer sous pression.
Oui, pour vous, vous inscrivez dans une certaine jurisprudence. Le fait que le chef de l'État, qui est du reste membre de la majorité, se présentait comme candidat indépendant, alors oui. Je crois que la CENI n'avait pas la marge de manœuvre, selon vous, pour condamner, au fait, les candidats qui se sont présentés comme indépendants, parce que, comme qui dirait les juristes, l'erreur commune fait le droit.
Exactement. C'est-à-dire que même si, c'est ce que je suis en train de dire ici, on devait quand même laisser cette situation passer, parce qu'au finish, nous savons ce qui se passe. Même ceux qui ont été opposants aux tels gouverneurs sont devenus membres de cette plateforme politique. Alors, au lieu d'exposer ces ridicules à l'opinion nationale et internationale qui observe cette situation avec des dettes, ils devaient quand même se taire. Alors, ils ont, en fait, à travers encore cette démarche, ils ont exposé la CENI. Parce que, vous savez, depuis que cette institution d'appui à la démocratie existe, les Congolais n'ont toujours pas confiance en fait, à cette institution. Ils ont toujours qualifié, comme mon prédécesseur d'Éguipou Tarsen, qui disait que non, cette institution était toujours qualifiée d'être aidée à la majorité. Alors, lorsque vous allez exercer des pressions à cette CENI et que cette CENI puisse en fait doit aller en fait dans le sens en fait de votre volonté. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez jeté quand même un discrédit à cette CENI. Alors, je veux dire ceci. Dans cette opération, moi je pense que la CENI devrait être épargnée par la LP. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui devrait se régler au sein d'un parti, au sein de cette plateforme. Hein? Les politiques ne peuvent pas influencer la CENI. Donc, ceux qui se sont portés candidats indépendants, contrairement en fait, au texte de leur parti, ces problèmes devaient être réglés. On devait envisager des sanctions qui pouvaient aller même jusqu'à la radiation de ces membres au sein de leur famille politique, au lieu de venir exposer ou régler les comptes au niveau de la CENI. Et ils ont mis cette CENI en difficulté. Vous avez vu qu'ils ont travaillé jusqu'à 2h, 3h du matin où les gens ne pouvaient pas s'accorder pour dire courageusement que ça c'est une situation politique et la CENI est apolitique. Nous ne pouvons pas. Elle devait se déclarer incompétente face à cette requête de la majorité présidentielle. Mais les ridicules ne tuent pas. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont été, qui ont vu leur nom débarquer de leur liste. Pourtant, ils ne sont même pas membres. Certains ne sont pas membres, en fait, de cette fameuse majorité présidentielle. Alors, de notre côté,
oui, rapidement.
Parlant de ce sujet, encourager l'indiscipline qui règne, en fait, qui caractérise certains acteurs politiques. Nous ne pouvons pas accepter lorsqu'on est dans un parti politique, il y a aussi des textes, il y a une ligne politique qu'on doit observer. il y a une discipline qu'on doit observer. Il y a aussi des mots d'ordre, ça existe dans un parti politique. Mais nous encourageons la culture démocratique aussi dans ces partis, parce que lorsqu'il y a des enjeux, il y a quand même plusieurs ambitions qui s'expriment au sein de ces partis. Au lieu qu'on impose des candidats au détriment de tel ou tel, qu'on puisse les aider les uns comme les autres, oui. Il va avoir cette culture d'organiser par exemple des primaires au sein de certains partis politiques, de certains partis politiques, pour sortir un candidat consensuel qui va peut-être représenter le parti après à
voilà, merci. Oui, merci beaucoup Maurice, merci. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que vous avez dû sortir dans vos propos par rapport à cette thématique, mais nous retenons quand même que aujourd'hui il y a une certaine liberté, il y a cette démocratie que nous devons promouvoir dans les différents partis politiques. Je crois que le législateur a pensé à cela lorsque on a pu élaborer la loi sur les partis politiques, et l'article que nous avons évoqué tout à l'heure dans notre sommaire, l'article 8 de la loi sur les partis politiques, qui garantit d'ailleurs à tout citoyen la liberté d'adhésion et de retrait d'un parti politique de son choix. Alors, cet article, en fait, est appliqué au même moment où il y a d'autres articles complémentaires au niveau de la loi électorale ou encore de la loi de la loi fondamentale, qui explique davantage cet aspect des choses, comment ce genre de situation peut être géré. Merci beaucoup, Maurice. Amos, vous êtes à Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent à ce moment. Au fait, je tiens à féliciter et à encourager les analyses de mes prédécesseurs par rapport à la situation qui continue à poser à notre pays à tous les niveaux, au niveau interne, au niveau de la région, au niveau de l'Afrique, voire au niveau international. Hier, nous avons précisé avec beaucoup de regrets les propos du rapporteur de la CENI qui a parlé de la non-recevabilité de certaines candidatures au compte de certaines candidatures de ce gouverneur-là dans les nouvelles provinces. Malheureusement, le rapporteur de la CENI, il n'a pas parlé de la loi, mais il a dit que non, s'ils ont pris cette décision, c'était sur demande de la majorité au pouvoir. C'est vrai que la population se pose beaucoup de questions. Pourquoi la CENI doit agir conformément aux demandes de la majorité présidentielle et non ne pas tenir de ce que dit notre loi? Vous avez hier suivi même Ali Thomas Logondo, quelqu'un de la majorité présidentielle, un député, qui a condamné cette manière d'agir de la CENI. Et il a d'ailleurs parlé de l'abomination juridique au niveau de notre pays. Je pense que ce que la CENI a fait met en cause son indépendance. Je trouve combien de fois la CENI est une copine de la majorité présidentielle. Comme mes professeurs l'ont dit, nous avons tous suivi en 2006 et en 2011 le président de la République qui a été élu comme étant indépendant au moment où c'était qui PPRD, d'ailleurs le fondateur du PPRD. Mais on a jamais suivi nos amis de la majorité dire non, le président ne doit pas se présenter comme candidat, étant donné qu'il est du PPRD, il n'a pas démissionné, mais sa candidature a été acceptée. Voilà combien de fois nous continuons à démontrer combien de fois nos amis du pouvoir prennent en otage la CENI, prend en otage toute la nation de la République, même la justice, parce que je doute que même si ces gens qui ont été, dont leurs candidatures ont été refusées, même s'ils vont à la justice, ils ne trouveront pas bien de cause, parce que c'est le pouvoir en place qui continue à prendre toute la nation du pays en otage. Nous pensons que la décision qui a été prise par la CENI n'est pas une décision juridique, mais c'est une décision politique. Et que cette mascarade-là de continuer à jouer avec le peuple congolais, moi je pense que le peuple congolais devait maintenant aller très loin. Comprendre que la CENI, nous n'avons pas de CENI au Congo, mais nous avons une institution de la majorité au pouvoir pour continuer à lutter le peuple congolais, dénommer les rêves.
Voilà, merci beaucoup à moi.
C'est que tout le monde avait décrié le fait que on avait nommé les choix qui vont les soigner le commissaire à la tête de notre province.
Merci.
Aujourd'hui, le PPRD et ses alliés, ils veulent maintenant maintenir les rêves et ils veulent lutter le peuple en organisant une mascarade électorale au moment où il va nommer les gens et non organiser une élection.
Voilà, merci beaucoup à Monsa d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, nous excusons auprès des auditeurs, parce qu'il y a quelques minutes, nous avons annoncé en fait la disponibilité de notre invité pour participer à cette émission. Heureusement pour nous, nous l'avons dans ce studio, professeur Onedim Koukatoula, rapporteur adjoint à la CENI. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, c'est un plaisir de vous avoir dans ce studio, malgré quelques malaises que vous avez. Voilà, après avoir suivi les auditeurs, en fait, la première question qui nous revient à l'esprit, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la motivation de cette décision de la CENI de déclarer certains dossiers irrécevables?
La CENI a travaillé en fonction de tous les textes légaux de la République. Et s'agissant de candidature des gouverneurs et vice-gouverneurs, nous avions plusieurs cas de figure, notamment, il y avait le cas où les regroupements politiques entre regroupements politiques et partis politiques. Et pour ces cas de figure, c'est la candidature du regroupement politique qui prime sur la candidature du parti politique. Le deuxième cas de figure, c'était les candidats indépendants, mais qui ont un mandat électif ou qui briguent une fonction, un mandat du parti politique concerné. Et le troisième cas de figure, c'était des candidats indépendants sans mandat. Et s'agissant des regroupements et partis politiques, je vous dis que dans ces cas, la situation est claire, c'est le regroupement qui prime. Et ça, c'est entre partis politiques et regroupements, c'est des documents internes, et la CENI n'a fait que constater. Mais pour des candidats indépendants, qui sont en fonction ou qui ont des mandats de leur parti politique, si les partis politiques, les regroupements ne réclament pas, la CENI n'a rien à faire. Mais dès lors qu'un candidat se présente comme un indépendant, mais il est en fonction, il a un mandat de ce parti-là, si les partis réclament ou les regroupements réclament, fait une réclamation, dans ce cas-là, la CENI devait tenir compte de la réclamation parce que là, on peut parler même des conflits d'intérêts. Mais s'il n'y a pas, parce qu'il y a des gens qui parlent par exemple du président de la République, mais son regroupement ou son parti politique n'a pas introduit une réclamation contre. Donc c'est des cas tout à fait différents. Mais pour les candidats indépendants qui ne sont pas en fonction et pour lesquels le parti n'a pas, le parti de regroupement n'a pas réclamé, là, nous étions en droit d'examiner, de valider la candidature. Donc, le problème de gestion des ambitions au sein des partis, ça c'est un problème interne aux partis politiques. Et les partis politiques ont un contenu. C'est une association de personnes physiques. Et donc, si cette personne physique est liée encore à son parti politique, donc nous tenons compte de ce qu'est le parti, parce que la personne exerce un mandat au nom du parti politique. Donc voici donc en gros
les motivations. Alors aujourd'hui, il est un secret pour personne, professeur Onedim, nous assistons à des partis politiques doublons. En tout cas, il y a des cas de doublons dans le fonctionnement des différents partis politiques. Comment la CENI gère cette difficulté?
La CENI s'en tient aux documents du ministère de l'Intérieur. Donc, pour la CENI et parti politique, la CENI un parti qui est reconnu légalement et officiellement par le ministère de l'Intérieur qui gère cet aspect des choses. Maintenant, si vous remontez, la CENI se retrouve devant trois ou quatre partis politiques. La CENI se réfère à la liste
du ministère de l'Intérieur. Donc ça, ce n'est pas le problème de la CENI. Ce problème se règle en amont. N'oubliez pas que la CENI a un comité de liaison, que la CENI a un comité de liaison au sein duquel participent tous les partis politiques. Et donc, on s'est référé à la liste du ministère de l'Intérieur. Alors, le cas de candidat indépendant. Alors, il y a un auditoire qui vient d'évoquer un cas de jurisprudence. Le chef de l'État, en 2006, se présente comme candidat de PPRD. En 2011, il est un candidat de l'indépendant. Un indépendant, en 2011. Alors, est-ce que la CENI s'est posé la question, parce que nous référons à l'article 18, qui évoque des cas d'irrécevabilité, si jamais il y a pas la déclaration au niveau de la candidature, cette déclaration n'est pas accompagnée d'une lettre de démission. Est-ce que le chef de l'État vous avait présenté un document qui avait démissionné en PPRD? Parce que là, nous tombons dans un cas de jurisprudence. Pour éclairer l'auditeur qui a évoqué ce cas. Le cas du chef de l'État, est-ce que son parti politique ou son regroupement a fait une réclamation? Non. On arrive dans le cas de presse. Son parti n'a pas introduit une requête.
Mais vous-même, la CENI, vous avez quand même la. Vous êtes le patron de les opérations électorales. Vous avez la loi, vous lisez la loi, parce qu'il y a une loi électorale. C'est vous qui avez le tableau de bord de la loi. Et vous avez remarqué que le chef de l'État, je cite l'État parce qu'il s'agit d'un cas qui a été évoqué par un auditeur, qui se présente en tant que membre de la majorité et qui est connu de tous, c'est l'autorité morale de la majorité, qui se présente comme indépendant. Mais vous avez aussi le devoir de dire, bon voilà, par rapport à cet élément, vous trouvez qu'il y a incompatibilité et que nous déclarons irrécevable. Vous ne l'avez pas fait. Mais pour les autres, vous le faites. Est-ce que ce n'est pas le cas de jurisprudence?
Les cas du chef de l'État qui s'est présenté, son dossier techniquement ne posait aucun problème. Et le contenu d'un dossier technique n'a pas que la lettre de démission, il y a tous les autres éléments.
Tout à fait.
Donc, son dossier est
il y a une lettre de consentement conforme au modèle écrit par la commission électorale, il y a une photocopie de la carte d'électeur, une attestation de naissance, une photocopie certifiée conforme par les services compétents du ministère ayant l'enseignement supérieur universitaire, une fiche d'identité, un symbole ou un logo par parti ou regroupement politique, une lettre d'investiture du candidat par son parti ou par son regroupement politique, indiquant en outre et en ordre utile l'identité de ses une preuve de paiement et puis la preuve de la démission ou de la demande de mise en disponibilité conformément à l'article 10, voilà, au cas des indépendants.
Son dossier était techniquement conforme.
Voilà, alors, tout au long au fil du temps, nous avons remarqué qu'il y a certains regroupements politiques qui, avant même qu'on arrive à 2016, qui se sont plaints de leurs membres. Je crois que même au niveau du Parlement, il y a certains qui devaient normalement perdre leur poste au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à la démission ou encore au retrait de certains partis politiques. Mais cela n'a pas été fait, c'était au vu de tout le monde. Alors pourquoi ne pas aujourd'hui, en tout cas pour des cas par exemple des indépendants, parce qu'il y a certains indépendants, qu'on a dû quand même laisser quand même les choses passer pour éviter ce genre de confrontation.
Non, vous savez que nous nous trouvons dans une situation où certaines alliances se sont défaites ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a des perturbations, il y a des changements, ce qui répond au principe de liberté, nous sommes d'accord avec ça. Mais à ce qui nous concerne, il faut que les documents soient en ordre. Donc si un parti politique a quitté un regroupement une semaine ou un mois avant que nous puissions nous siéger. Mais nous, les documents que nous utilisons, nous, c'est les documents du ministère de l'Intérieur. Qui sont partis pour dire d'aller régulariser la situation avant
Alors pourquoi la place de la Cour constitutionnelle dans tout ça? Est-ce que la Cour constitutionnelle ne peut pas être mise à profit?
Mais il faut qu'elle soit saisie.
Il faut qu'il y ait des contentieux.
Oui, il faut que j'ai choisi.
Voilà, alors on va prendre le professeur Ignace Colosi, Maître Papi à Kinshasa. Donc, comme pour dire, ceux qui se sentiront lésés, ils n'ont qu'à saisir la Cour constitutionnelle pour peut-être interprétation, la Cour d'appel, voilà, pour interprétation des textes, parce que chacun qui les drague de son côté, on ne sait pas qui comprend mieux les dispositions constitutionnelles ou encore les dispositions des lois. Professeur Ignace, vous êtes à Colosi. Bonjour, professeur.
Professeur Ignace, vous êtes avec nous?
Il y a une préoccupation majeure dans tout ce qui vient de se passer. Problème d'abord d'information et problème de culture, de loi aussi. Information, je vais dire, c'est que j'ai comme l'impression que nous ne connaissons pas la loi en général. Et la loi sur l'organisation, l'agrément des partis politiques, de leur fonctionnement. Mais il y a aussi des problèmes de connaissance de la loi électorale par ceux-là qui doivent la manipuler. Je pense ici à la CENI et qui doivent l'appliquer et les différents candidats. Je pense, vous l'avez dit en passant, que chaque parti politique a une mission. La mission de sensibiliser les membres, la mission de conserver le pouvoir, mais aussi de former les candidats pour les élections éventuelles. Mais qu'est-ce que l'on constate? On sent que au sein des partis politiques et même des regroupements politiques, ceux-là qui postulent ne savent pas exactement comment fonctionnent les partis politiques, comment doivent être déposées les candidatures au sein des partis politiques et au sein des regroupements politiques. Ça, c'est un problème. Comme conséquence, vous voyez, on y va comment vaille que vaille, et avec toutes les conséquences aujourd'hui des débats interminables. Il y a aussi un autre problème, la loi de l'agrément sur l'agrément des partis politiques au niveau du ministère de l'Intérieur. Je crois qu'on devrait faire beaucoup attention lorsqu'on agrée un parti pour savoir qui vient agréer un parti, quel est son cursus sur le plan politique et tout ce qui suit. Mais je voudrais poser la question parce que l'occasion m'est offerte à notre invité. Je ne sais pas s'il peut nous expliquer le cas si Obeninakou, le président de l'Assemblée nationale, n'avait pas envoyé la lettre qui s'est coulée d'encre aujourd'hui, s'il ne l'avait pas envoyée, est-ce que la CENI aurait réellement débarqué les différents membres qui sont débarqués aujourd'hui? Parce qu'on a comme l'impression, c'est là qu'il y a des accusations. C'est comme si, aujourd'hui, nous c'était cette lettre, la CENI ne l'aurait pas fait.
Oui, je crois que sous contrôle
à un certain moment, la CENI a avancé en disant que la loi ne permettait pas ou n'avait pas fait ce cas de figure qui consistait à débarquer certains membres de partis politiques. Donc, problème d'information de ceux qui sont appelés à gérer et à participer comme députés ou membres de partis politiques.
Alors voilà, oui, professeur Elias, je crois que ce sera sous contrôle de notre invité. Oui. Voilà, donc je crois que s'il n'y a pas eu dénonciation, en tout cas, il n'y aurait pas eu problème. Il n'y aurait pas eu de problème. En tout cas, à croire le propos de notre invité tout à l'heure, il n'y aurait pas eu de problème. Raison pour laquelle nous sommes. En fait, il y a certains auditeurs qui ont émonté même l'histoire en posant même la question sur la question relative à la candidature du chef de l'État en 2006 et en 2011 comme indépendant. Est-ce que ça ne posait pas un problème? La CENI a dit qu'il n'y avait pas de problème parce qu'il n'y a pas eu de dénonciation, il n'y a pas eu de plainte au niveau de son regroupement politique. Voilà. Donc, je crois que notre invité va revenir sur ça. Merci beaucoup, professeur Ignace. Maître Papi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Maître Papi.
Bonjour, monsieur le juge, bonjour aussi à l'invité.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Moi, je crois que le Congo, c'est un grand pays. Nous sommes en train de consolider notre démocratie. Et les politiques congolais doivent faire preuve de certaines notions, donc de la connaissance de certaines notions du droit. Lorsque l'invité parle d'une question qui me marque venir par rapport à la jurisprudence, je me pose la question de savoir et l'aspect technique et l'aspect juridique, qu'est-ce qui prime sur l'autre. Lorsqu'ils disent que la fois passée, parce que les partis politiques concernés n'avaient pas introduit la requête au niveau de la CENI pour que celui-ci puisse analyser, soit examiner minutieusement ces problèmes-là. Moi, je crois que c'est faux, parce que s'il en était ainsi, il fallait que la CENI elle-même puisse le soulever même d'office, parce que ça, c'est un intérêt général, c'est question de respect des textes légaux. Elle peut le soulever d'office. Aujourd'hui, lorsqu'elle soutient cela, moi, je suis désolé parce que, monsieur Gilles, il fallait, s'il en était ainsi, par rapport à la requête actuellement, il fallait que les partis politiques concernés puissent déjà envoyer en amont les listes des gens qui avaient été inscrits d'une manière ou d'une autre de ces partis politiques-là. Mais lorsque aujourd'hui les gens veulent introduire leur candidature à la CENI et évoquer ces problèmes-là, moi je crois que ça c'est un faux fuyant. Parce que cette jurisprudence-là on peut l'appeler jurisprudence, mais c'est une jurisprudence isolée et on ne peut plus l'appliquer. Ça ne peut pas se servir des modèles, mais c'est juré. Moi, j'en appelle à la conscience et tout d'appel qui seront saisis de mal notre procès litige-là, de faire preuve vraiment d'une indépendance. Parce que c'est l'aspect juridique qui doit tenir sur l'aspect technique, mais c'est juré. Donc, les politiques congolais doivent inciter les intérêts au groupe et qu'ils poursuivent parce que le peuple congolais a un œil vigilant. Nous sommes en train de regarder, nous sommes désolés de tout le monde. Parce que si vous regardez et vous analysez minutieusement, vous allez vous rendre compte que ce sont des intérêts égoïstes. Personne d'entre eux ne fait cela pour l'intérêt général du peuple.
Merci beaucoup, Maître Papi. Merci. Voilà, on va accueillir Maître Sabouni qui est à Kisangani. Maître, vous êtes avec nous et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui. Bonjour, Pierre.
Bonjour, vous avez la parole, Maître Sabouni. Quel est votre avis?
Je vais poser seulement la question au professeur.
Mais vous dites quoi? Quel est votre... Maître Sabouni, voilà. Avant de poser votre question, quel est votre avis? Quel est votre avis par rapport à la thématique?
Bon, mon avis est ceci. Par rapport au professeur Jacques Ngolou, qui fut le président de la CENI, lui-même, sa candidature fut rejetée. Je ne sais pas pourquoi. Lui connaît les règles du jeu. Mais pourquoi la candidature du professeur Ngolou fut rejetée? Deuxième cas, les partis politiques, dans les plateformes, jouent au filière d'économie. Ce n'est pas aux plateformes, soit le niveau de candidature, vient soit par parti politique, soit par personne individuelle. Nous n'avons pas de problème avec les plateformes. Si le professeur Joly, on a reçu sa candidature, mais si la plateforme de professeur Joly, soit qui est dynamique de l'opposition, c'est un qui est inscrit sur la CENI. Je dis ceci, non. Nous disons ceci. Le président de la République, en 2006, il avait dit je suis candidat indépendant pour tout le peuple congolais. C'est à ce moment-là que je vais féliciter le président Michler. Il a rejeté la majorité. Il a rejeté le candidat pour tout le monde. Mais aujourd'hui, à l'histoire des élections, nous avons presque trois présidents dans notre histoire. Nous avons première fois celle des présidents de la. Non, le gouvernement de la province orientale de Mambré, à l'occurrence de Yabamani Kassoudi, qui a battu même.
Voilà, alors, Maître Sabouni. Alors, pour votre information, parce que juste là, nous n'avons pas d'information précise par rapport à la candidature de Jacques Joly. C'est vrai, ça prête un peu confusion. Tantôt, on voit sur la liste qui, au fait des journaux qui ont apparu, on n'a pas vu le nom de Jacques Joly, mais on le dit sur le site de la CENI. Il y a son nom, bon, on ne sait pas. On va vérifier avec notre invité, mais c'est que nous savons que l'ancien gouverneur, le gouverneur honoraire Bamanissa, selon les dernières informations, ça aussi c'est à vérifier, il a été invalidé. Alors, on connaîtra un peu les raisons qui ont délité à ce que ça ait validé. Merci beaucoup, Maître Sabouni. Victor, vous êtes en Bandangongo. Bonjour, Victor.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'invité, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un grand travail à faire dans ce pays, le respect de la loi. Et une institution telle que la CENI, c'est une institution qui devrait être très très sérieuse. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce que moi je suis dans le Bas-Congo, où l'actuel gouverneur a été indépendant, et il évoque les raisons qu'il est en train d'évoquer là, mais ce sont des raisons qui ne tiennent pas debout. Je vous assure, et le président Minako, il n'est pas seulement président de l'Assemblée nationale actuellement, il est aussi président de l'Assemblée de la Francophonie, où il y a un service spécialisé des élections, par rapport aux élections. Donc moi je crois que nous sommes en train de faire la honte de ces pays. Et là maintenant, on est en train de donner raison à l'opposition qui est en train de dire que la CENI n'existe pas. Et que la CENI, c'est la majorité présidentielle. Toutes les raisons-là qu'il est en train d'évoquer, ce sont des raisons qui ne tiennent pas de vous légalement. Il ne faut pas aller à l'université pour pouvoir comprendre cela.
mais ça fait la honte. Nous, nous sommes au village et le paysan se demande ce qui se passe dans les têtes des intellectuels congolais. Vraiment, je m'arrête là, c'est la honte de notre pays. Et je crois qu'il faudrait que la CENI se dédouane de cette pression du gouvernement. Sinon, c'est terrible et ça risque de conduire le pays à un chaos. Merci
beaucoup. Merci beaucoup, Victor. Alors, pression politique, est-ce que vous partagez cet avis, professeur Rosy?
Non, pression, pas du tout. Il n'y a pas de pression politique. Il y a les pressions de textes. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de pression. Les pressions de textes, ce sont les textes. Non, ça fonctionne les textes. Il y a certains cas où les textes ne sont pas en ordre. Il faut harmoniser les textes. Mais ça, ce n'est pas la CENI, ça. Alors, je reviens sur le problème. Aubin Minaku n'a pas agi en tant que président de l'Assemblée nationale. Il a agi en tant que numéro 1 de la majorité. Il n'a pas de forme. On ne peut pas lui nier ces droits-là. Alors, c'est un regroupement politique. Ils ont un code de bonne conduite, ils ont des règles, des disciplines. Alors là, bon, ils ne rentrent pas dans ces débats-là. Si dans leur regroupement politique, ils estiment qu'ils doivent aligner les candidats selon leurs principes internes, ça, ça ne concerne vraiment pas la CENI. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas eu pression. Bon. S'agissant du prof Joly, ça, c'est l'article 20 de la loi organique de la CENI. On s'est référé sur cet article-là. L'article 20 de la loi organique.
Oui.
De la CENI. Alors, s'agissant des dénonciations et des réclamations, nous disons que les militants d'un parti politique sont des personnes physiques et ils sont tenus à respecter et ils sont liés, ces personnes physiques-là sont liées, restent liées à leur parti politique et à leur regroupement politique. Donc, dès lors qu'un parti ou regroupement dénonce ou réclame,
voilà, on va peut-être découvrir l'article 20 dont vous parlez. Il y a, je crois que c'est ça, je m'abuse, là, avant d'entrer en fonction, chaque membre de la CENI. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est cela, on a pratiquement des textes différents. Alors, qu'est-ce dit l'article 20?
L'article 20 dit que aucun membre de la CENI ne peut se présenter lorsque il a exercé des fonctions pendant les
séries. Le jeune n'est pas le plus.
C'est leur cycle, non?
C'est le cycle, oui. Voilà. Alors, on va évoluer. Cette fois-là, il y a beaucoup de messages. On va découvrir quelques-uns. Il y a Olivier Polo et Dunzi de Kinshasa. Moi, je trouve que la CENI devrait laisser le parti politique Eman de choisir ses candidats gouverneurs, car elle s'immisce dans les affaires qui ne les concernent pas du tout, et donc ce sont des stratagèmes politiques que l'ANP cherche à remporter tous les sièges. Van le Trésor m'a dit de Kananga au quartier central, c'est quand les institutions de mon pays seront telles indépendantes. Je me demande tout le temps si mon pays est gouverné par les cadres ou bien les gens semblent être des cadres. Bruno de Kalunga de Lubumbashi, j'estime que cette allégation de MP ne tient pas debout. Prince Katumba, la façon dont la CENI organise les élections de gouverneur et vice-gouverneur, en sélectionnant les candidats, nous pouvons déjà avoir une idée sur la température du climat politique qui prédomine en son sein. Junior Innocent, Mouchi, moi, Junior de Lubumbashi, je pense que la CENI a tous les atouts ou tous les outils possibles face à ces enjeux. Elle n'a pas à suivre les injonctions de qui que ce soit. Chico Bassa de Kananga, la CENI est à une église au milieu du village, ne devrait pas être prêtée, validée donc les candidatures. Voilà. Donc autant de questionnements et puis d'appréhension, des gens se poseront la question pourquoi la CENI a-t-elle agi donc avec cet empressement, avec cette promptitude. Aussitôt, la majorité a envoyé la lettre et la CENI a réagi directement.
Non. La CENI n'a pas réagi parce que
la majorité a envoyé la lettre vendredi soir. C'était vendredi soir ou samedi, je crois.
Non, bien avant, pendant la période de retrait à l'eau substitution. La lettre, d'ailleurs, était envoyée dans les différents vertices à travers le pays. Et la CENI n'a pas délibéré à tenir compte de ces éléments. Déjà, dans les vertices, on a tenu compte de ces éléments-là. Donc, ce n'est pas que la CENI a agi parce que la majorité a écrit. La majorité, probablement, a constaté qu'il y avait, je ne sais pas, il y avait quelques cadres ou quelques militants qui n'ont pas été obéis à leur discipline,
C'est pour cela que la majorité a écrit pour remettre les choses en ordre au sein de leur regroupement politique.
Et qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Qu'est-ce qui va se passer?
Pour le candidat, qu'est-ce qu'il doit faire? Le candidat est validé.
Non, le candidat. Les candidats qui sont invalidés, ceux qui acceptent qu'ils sont invalidés, bon, ils se courbent à la décision de la CENI, mais ceux qui estiment qu'ils ont été lésés, ils ont encore deux jours pour aller.
Alors, vous avez la période de contentieux vers les différents
appels.
Vous avez expliqué les raisons qui ont milité pour l'invalidation de la candidature de Jacques Joly. Alors, pour le cas de Bamanissa, vous pouvez éclairer également la lanterne.
Je l'ai pas sur le cas. Oui, ici, c'est. Il faut que je voie. Hein,
voilà, donc on a pratiquement une confusion. Je crois qu'il faut vraiment sensibiliser et aussi vulgariser, parce que finalement, on cite les noms. Tantôt, on nous dit les noms de la malice et sur la liste. Bon, voilà, il y a pas mal de confusion. On va prendre
maître Covid. C'est sur un sujet, moi, j'ai pas tout.
Voilà. Voilà, alors on va prendre maître Covid. Maître Covid, vous êtes à l'Ubachi. Bonjour, maître Covid.
Bonjour, monsieur Gir. Bonjour à tous nos auditeurs de la radio. Bonjour aussi à notre invité.
Voilà, vous avez la parole.
Oui, alors.
Vous avez la parole, maître Covid.
Oui, par rapport à la thématique, monsieur Gir, nous ne pouvons pas mourir, hein. Nous devons dire la vérité. C'est-à-dire que la CENI vient de démontrer qu'elle est invalidée par le pouvoir. Tout ce que le problème, c'est là, c'est quoi? On ne peut pas invalider les candidatures des gens indépendants. Là, ça ne se comprend pas. Même si on leur donne un moratoire de 48 heures pour procéder les recours. Nous savons comment ça fonctionne aussi notre justice. Les cours d'appel, là, sont des choses interdites par le pouvoir. Moi, je ne comprends absolument rien. Il y a certains de mes prédécesseurs qui ont évoqué l'état du président de la République. Il avait déposé sa candidature en tant qu'indépendant. Et sa famille de la majorité présidentielle ne s'est jamais plainte, n'a jamais exprimé lors de la République d'invalider la candidature du chef de l'État. Mais la CENI a agi sous pression. Et vous savez, c'est à 2h du matin que la liste est déjà a été sortie pour les invalider. Ce n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de discussions dans ce cas et des gens sont venus de loin du pouvoir. On ne peut pas tolérer le pouvoir. Ce n'est pas de cette façon que la CENI doit se comporter. La CENI doit être décrite au milieu du village.
Oui, je vous renvoie quand même à lire une extension, la loi, disons, électorale, entre les articles 10, 13, 18 jusqu'à 22, où il y a des conditionnalités pour arriver à déclarer irrécevable un dossier ou encore une candidature. Je crois que ça vous permettrait de vous faire une idée sur toute cette conditionnalité et ça nous éviterait tous parfois de faire au fait des réflexions aléatoires. Merci beaucoup, maître Sobine. Et je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter.
Oui, j'ai ajouté, monsieur Gier. Parce que les gens là de la famille présidentielle, ils ont se présenté en indépendant. Ça prouve à suffisance que dans la majorité présidentielle, il n'y a pas de dialogue. Ils ne sont pas compris. Et or, ici à Lubumbashi, lorsqu'on aurait vu présenter, confirmer la candidature d'un candidat de l'ANP et de PPRD, mais il faut déjà la faire. C'est comme si le monsieur était déjà devenu gouverneur. Vous comprenez que M. Jean-Claude Kazembe, il y a la fête qui a été dictée même au niveau de notre Canada. Alors nous décidons que pour organiser ces élections, si nous savons déjà certains messieurs qui parlent pour ces élections, quoi que ce soit. Ça, nous ne sommes pas d'accord, M.
Voilà, nous avons le message qui est à l'auditoire.
Soit être des deux en
voilà, et l'auditeur, merci beaucoup, Maître Sonville, pour renchérir. Il y a un auditeur qui a écrit, il s'agit bien de Moïdo, qui dit ceci, ben voilà. Qu'après avoir invalidé certaines candidatures, on se retrouvait dans certains coins où il n'y a que des candidats de la majorité. Ils ont cité les cas du Kassai central et aussi du Kassai où il y a simplement un candidat de la majorité et un indépendant qui est éliminé répondu. Voilà, merci beaucoup, maître Tonville. Mais professeur Olesim, vous êtes rapporteur. C'est vrai, cette liste que vous regardez, par exemple, comme l'a dit l'auditeur, au Kassai central, il n'y a que les candidats de la majorité. Au Kassai, il n'y a que le candidat de la majorité RN indépendant qui est l'élection inconnue. Bon, voilà, ça, ce sont des auditeurs qui ont envoyé des messages. Comment vous réagissez par rapport à 2h du matin, vous voulez une liste? Et dans cette liste, on se rend compte que dans la plupart, ce sont des candidats de la majorité.
privé. Comment voulez-vous que je réponde à cette question? Parce que les candidats étaient libres d'aller déposer les candidatures.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? La CENI a traité les dossiers qui étaient envoyés par les Belges. Maintenant, si dans l'une ou l'autre province, il n'y a eu que les candidats
de la majorité,
alors, vous voulez encore que la CENI ait demandé un
peu la position ou à la
voilà, la CENI s'est référée au dossier qui était dans le BRTC qui est envoyé ici au siège.
Alors, on va prendre Serge. Serge, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Serge. Et bienvenue, la parole aux auditeurs. Serge, vous êtes avec nous?
Professeur, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi Kinshasa et toute la République démocratique du Congo.
Serge, vous avez la parole, Serge.
Oui, merci beaucoup, Julien. Je disais tout à l'heure à mes amis avec qui nous sommes en train de suivre l'émission avec beaucoup d'attention, et lorsque vous avez lu la loi électorale, nous avons compris, même avec l'interprétation du professeur qui est sur qui est chez vous là, votre invité, et nous avons trouvé qu'il y a la primauté de la candidature d'un regroupement sur la candidature de parti politique, en fait. Mais on n'a pas vu quelque part où la loi interdit quelqu'un à se présenter en indépendant. Si son regroupement ne veut pas le présenter comme candidat et que lui, il se sent, il est motivé, il veut postuler, la loi ne l'interdit pas. Ça, c'est une peur de manche. Je voulais aussi un tout petit peu calmer les Congolais. Il faut faire la lecture des choses et ne pas trop s'acharner. Ceux qui mangeaient avec nos frères de l'AMP, de la majorité présidentielle, nous ont dit publiquement que rien n'était mis en marche pour qu'on ait des élections fiables la fin de cette année. Ça, c'est ceux qui mangeaient hier avec eux qui nous ont dit ça. Et ça se prouve. Moi, je ne vois pas pourquoi les Congolais doivent avoir confiance en cette structure qu'ils appellent aujourd'hui CENI. Il n'y a aucun signe qui prouve qu'il y a l'indépendance de la CENI. Quand nous savons comment ils arrivent dans cette structure, nous savons comment il y a des tractations pour qu'ils arrivent là-bas. Vous voyez que les candidats présentés dans des circonscriptions ne sont que de la famille politique du président de la République. Tout ça, ça ne nous demande même pas à parler beaucoup GR. Ça ne nous demande même pas beaucoup d'émissions, de justoires. Non. Comprenons seulement les messages et prenons-nous en charge. Merci beaucoup, GR.
Merci beaucoup, Serge. On va prendre Bénin qui est à Kinshasa également. Bénin, vous êtes avec nous? Bénin, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, GR. Bonjour.
Quel est votre avis, Bénin?
Mon avis, c'est comme tout le monde là, c'est un peu tutier. Vous avez vu même cette histoire-là de nomination des commissaires spéciaux. C'est-à-dire la majorité veut que toute la République soit à 100% gérée par elle-même. Même de bonne foi, ils auraient pris même toutes les provinces, ne laisser qu'une peut-être pour l'opposition. Vous voyez ce qui s'est fait, le positionnement. Ngoy Kasangi, qui était gouverneur, transmis, devenu plutôt transformé en commissaire spécial, mais candidat retenu au Kasaï, Baende consort. Ce qu'on peut dire sincèrement aux Congolais, c'est que, pas seulement aux Congolais, mais demander au gouvernement qu'il y ait un peu de retenir dans cette gourmandise politique, parce que il faut que les responsabilités soient partagées. Les gens disent il n'y a pas d'électricité, telle province dit, mais laissez aussi la responsabilité à l'opposition. Sinon, tout ce qui est mauvais sera endossé dans leur dos. Donc, c'est à réfléchir, c'est simple. Cette gourmandise politique, nous, la jeunesse, nous comprenons. Aujourd'hui, nous pouvons adhérer là-bas tout ça. Mais quelle éducation politique nous pouvons avoir pour être un citoyen?
Merci beaucoup, Béla. Alors, professeur Olevi, on va terminer cette émission en ayant une compréhension unique et générale de l'article 162 que j'aimerais bien lire pour vous, peut-être vous allez de la loi électorale. Il y a la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. L'article 162 des provinces est présenté par un parti politique ou un groupement politique. Les candidats indépendants présentent également leur candidature. On dit bien le candidat indépendant présente également leur candidature. Nul ne peut devenir gouverneur ou vice-gouverneur de province s'il n'est rempli les conditions suivantes. 1. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 ans révolu à la date de clôture du dépôt des candidatures. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils
et politique. Avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Alors, l'âge entier à l'alinéa 3, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à l'article 8, sur les partis politiques, le fait d'invalider un mandat d'un candidat indépendant, c'est pratiquement enfreindre à sa liberté?
Je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur cette notion de candidat indépendant. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui est détenteur d'un mandat d'un parti politique, il est en fonction, ok? Il dépose sa candidature comme indépendant, son parti, qui l'a mandaté, lui dit non, non, toi tu restes ou tu fais autre chose. Et la personne, dans les 3 heures, s'est mue en indépendant. Mais il continue à maintenir ce mandat-là. Vous pensez qu'il est indépendant?
On peut vous donner des cas.
Laissez-moi terminer. C'est ça le problème. Parce que là, on considère qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. S'il n'y avait pas réclamation, mais si le parti lui dit, mais vous détenez, vous êtes en fonction au nom de notre parti. Vous détenez notre mandat. Alors, comment
est-ce que le bureau, la composition par exemple du bureau actuel de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est uniquement des gens qui sont issus de l'actuel, en fait, de leur parti politique actuel, ou peut-être ils ont quitté tel parti, mais ils se sont, peut-être il y a eu des actions de leur parti qui se sont retrouvés dans ces bureaux. Bon voilà, c'est là où peut-être l'état de jurisprudence se pose, et d'aucuns voudraient que la CENI puisse être un peu large par rapport à ça, parce que c'est l'erreur commune fait le droit. Et je le répète.
Là, le dernier mot, la CENI a tenu compte de tous ces éléments, mais s'agissant de l'indépendance de certains candidats, ce candidat se déclare indépendant pendant qu'il continue à exercer son ensemble au nom. Oui, c'est parti. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, dès lors qu'il y a réclamation, c'est qu'il y a conflit d'intérêt. Et c'est le candidat ne bénéficie plus de présomption du nom. C'est ça, justement. Et puis, ça, du jour au lendemain.
Merci beaucoup.
Vous êtes indépendant et vous êtes vraiment indépendant. Vous démissionnez en tout et pour tout. Ou vous n'êtes pas. Et là,
voilà, sincèrement, nous vous disons merci, professeur Odédine Kakutula, rapporteur adjoint à la CENI, d'avoir accepté notre invitation malgré votre état de santé. Voilà, donc nous sommes très accueillis. On dit également merci à Alain Roy et à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission qui vous a été coordonnée et présentée par Jérôme Guémo sous la supervision de Martin Sebou-Janglais. On se retrouve demain.